Chapitre 7. La Caroline du Sud, désormais derrière nous, tout semblait nous sourire de nouveau. Dans une tribune publiée par le New York Times le 27 janvier, Caroline Kennedy a déclaré son soutien officiel en ma faveur, expliquant avec générosité que notre campagne lui avait fait comprendre pour la première fois l'inspiration que son père avait jadis suscitée dans la jeunesse américaine. Son oncle, Ted Kennedy, lui a emboîté le pas le lendemain, me rejoignant sur scène lors d'un meeting devant plusieurs milliers d'étudiants de l'American University à Washington. Teddy a été absolument phénoménal, convoquant toute la magie de Camelot pour réfuter l'argument de l'inexpérience autrefois utilisée contre son frère et dirigée à présent contre moi. Axe parlerait d'un passage de relais symbolique, et j'ai bien vu en effet à quel point ce moment était important pour Teddy. C'était comme s'il avait entendu résonner une corde familière dans notre campagne et qu'il avait été soudain propulsé dans le passé, avant l'assassinat de ses frères, avant le Vietnam, avant la rage blanche en réaction au mouvement des droits civiques, avant les émeutes, le Watergate, la fermeture des usines, les violences du festival d'Altamont et le sida, à une époque où la gauche débordait d'optimisme et pensait que rien n'était impossible, animé par un esprit intrépide, ce même esprit qui avait forgé la sensibilité de ma mère lorsqu'elle était jeune et qu'elle m'avait insufflé à son tour. Le soutien officiel des Kennedy a ajouté une touche poétique à notre campagne et nous a aidés à fourbir nos armes en vue du Super Tuesday, le 5 février 2008, qui verrait la nation choisir la moitié de ses délégués en une seule journée. Nous savions depuis le début que le Super Tuesday représentait un défi colossal. En dépit de notre victoire dans l'Iowa et en Caroline du Sud, Hillary restait bien plus connue du grand public au niveau national, et la campagne de proximité que nous avions menée au début de la course n'était tout simplement pas possible dans certains États beaucoup plus densément peuplés tels que la Californie ou New York. En revanche, nous disposions d'une infanterie sur le terrain dont les rangs ne cessaient de croître de jour en jour. Avec l'aide de Jeff Berman, expert du processus de désignation des délégués, et de notre infatigable directeur des opérations sur le terrain, John Carson, Plouffe a mis au point une stratégie que nous allions appliquer avec la même irréductible obstination que dans l'Iowa. Plutôt que d'essayer de remporter les États où le choix des délégués se faisait par les urnes et d'investir dans des spots télé afin de minimiser nos défaites, nous avons concentré mes déplacements et nos opérations de terrain sur les États qui votaient par caucus, des zones géographiques souvent plus petites et en grande majorité rurales et blanches, où l'enthousiasme de nos supporters pouvait entraîner de forts taux de participation et des victoires par la bande, non pas en nombre de suffrages, mais en nombre de délégués. L'Idaho a été l'illustration parfaite de cette stratégie. Cela n'aurait eu aucun sens d'envoyer une équipe officielle de la campagne dans un état si minuscule et acquis aux républicains. Mais un groupe de bénévoles armés d'une solide détermination, qui s'était baptisé les Idahoans pour Obama, avait monté leur propre organisation. Ils avaient passé un an à bâtir une communauté, grâce à des réseaux sociaux comme MySpace et Meetup, à se familiariser avec mes positions, à créer leur propre plateforme de collecte de fonds, à organiser des meetings et à étendre leur présence stratégique dans l'ensemble de l'État. Quelques jours avant le Super Tuesday, quand Plouffe m'a dit que je devais me rendre à Boise, la capitale de l'Idaho, plutôt que de prolonger d'une journée ma campagne en Californie où nous étions en train de réaliser une belle percée, j'avoue que j'ai eu des doutes. Mais les 14 000 Idahoans survoltés devant lesquels je me suis retrouvé dans l'arène de Boise State ont eu vite fait de balayer mon scepticisme. Nous avons fini par gagner dans l'Idaho avec un tel écart que nous avons remporté plus de délégués que n'en a empoché Hillary en gagnant dans le New Jersey, un État qui compte pourtant 5 fois plus d'habitants. C'est devenu un schéma récurrent. 13 des 22 États en jeu lors du Super Tuesday sont tombés dans notre escarcelle. Et si Hillary nous a battus de quelques points à New York et en Californie, ces deux États nous ont rapporté en tout 13 délégués de plus qu'à elle. C'était une réussite remarquable, due au talent et à l'énergie de Plouffe, de nos équipes de terrain et surtout de nos bénévoles. Et compte tenu du fait que les commentateurs politiques et l'équipe de campagne de Clinton continuaient de douter de ma capacité à faire le poids lors de l'élection générale, j'étais d'autant plus satisfait d'avoir fait bouger les tables dans les régions prétendument acquises aux républicains. Ce qui m'a frappé par ailleurs, c'est le rôle de plus en plus important que jouait la technologie dans nos victoires. L'extraordinaire jeunesse de mon équipe nous avait permis de reprendre à notre compte et de perfectionner les réseaux numériques dont la campagne de Howard Dean avait posé les bases 4 ans plus tôt. Notre statut de nouveau venu dans la course présidentielle nous forçait à nous en remettre constamment à l'énergie et à la créativité des bénévoles pour qui Internet n'avait pas de secret. Des millions de petits donateurs nous aidaient à maintenir nos opérations à flot. Des chaînes d'e-mails contribuaient à diffuser notre message de campagne comme nous n'aurions pas pu le faire à travers les grands médias traditionnels. Et de nouvelles communautés se formaient, rassemblant des gens jusqu'ici isolés les uns des autres. Au lendemain du Super Tuesday, je me sentais inspiré. Je croyais entrevoir l'avenir, la résurgence d'une participation citoyenne qui pourrait remettre en marche notre démocratie. Ce dont je ne pouvais pas encore prendre la pleine mesure, c'est l'immense souplesse qu'allait offrir cette technologie. La vitesse à laquelle elle allait être absorbée par les intérêts commerciaux et intégrée à l'arsenal des pouvoirs établis. La facilité avec laquelle elle pouvait être utilisée non pas pour unir les gens, mais pour les égarer ou les diviser. Et la façon dont, un jour, ces mêmes outils qui m'avaient permis d'entrer à la Maison Blanche seraient instrumentalisés à l'encontre de toutes les valeurs que je défendais. Ces réflexions viendraient plus tard. Après le Super Tuesday, nous avons poursuivi sur notre lancée avec une série de victoires écrasantes, remportant 11 primaires et caucus d'affilée en l'espace de 2 semaines, avec une moyenne de 36 points d'avance à chaque fois. C'était une période grisante, presque surréaliste, même si tout le staff et moi-même faisions de notre mieux pour ne pas vendre la peau de l'ours. « Souvenons-nous du New Hampshire », répétions-nous souvent, car nous étions conscients que le match pouvait basculer à tout moment et qu'il y avait encore beaucoup de gens qui avaient envie de nous voir échouer. Dans Les âmes du peuple noir, le sociologue W.E.B. Du Bois décrit la double conscience des Noirs américains à l'aube du XXe siècle. Bien qu'ils soient nés et qu'ils aient grandi sur le sol américain, qu'ils aient été façonnés par les institutions de la nation et nourris de ses valeurs, bien que le labeur de leurs mains et les battements de leur cœur aient tant contribué à l'économie et à la culture de ce pays, malgré tout cela, écrit Dubois, les Noirs américains demeurent perpétuellement l'autre, toujours en dehors, conscients en permanence de leur dualité, définie non par ce qu'ils sont, mais par ce qu'ils ne peuvent jamais être. Quand j'étais jeune, les écrits de Dubois m'avaient énormément appris. Mais que ce soit en raison de l'éducation que j'avais reçue sous la tutelle d'un parent unique ou en raison de l'époque à laquelle j'avais atteint l'âge adulte, cette notion de double conscience n'était pas quelque chose que j'avais éprouvé à titre personnel. Je m'étais beaucoup interrogé sur mon métissage et sur le phénomène de la discrimination raciale, mais à aucun moment je n'avais remis en question, ni entendu quiconque remettre en question, mon américanité fondamentale. Bien entendu, jamais auparavant je n'avais été candidat à la présidentielle. Même avant l'annonce officielle de ma candidature, Gibbs et notre équipe de communication avaient dû démentir diverses rumeurs qui avaient surgi çà et là sur les ondes des radios conservatrices ou sur des sites internet malveillants, avant de migrer vers le blog conservateur Drudge Report ou vers Fox News. On racontait que j'avais été scolarisé dans une médersa en Indonésie. Cette rumeur a si bien fait son chemin qu'un correspondant de CNN est allé jusqu'à se rendre à Jakarta afin de visiter mon ancienne école élémentaire, où il n'a vu qu'une bande de gamins vêtus d'uniformes scolaires à l'occidental qui écoutaient les New Kids on the Block sur leur iPod. Certains ont affirmé que je n'étais pas citoyen américain, comme le prouvait sans conteste une photo de moi en costume traditionnel africain au mariage de mon demi-frère kényan. Au fil de la campagne, d'autres allégations mensongères et sensationnalistes se sont répandues. Ces dernières n'avaient rien à voir avec ma nationalité cette fois, mais avaient trait à d'autres caractéristiques qui faisaient de moi un étranger dans un registre plus familier, plus indigène, plus sordide. On disait que j'avais été dealer, prostitué, que j'avais des accointances marxistes et une ribambelle d'enfants nés hors des liens du mariage. Il était difficile de prendre ces histoires au sérieux, et d'ailleurs, au début du moins, pas grand monde n'y prêtait attention. En 2008, Internet était encore trop lent, trop peu répandu, et trop éloigné du traitement traditionnel de l'information pour pénétrer directement dans l'esprit des électeurs. Mais il y avait d'autres façons, plus indirectes et plus insidieuses, de jeter le discrédit sur mes affinités. Au lendemain des attaques du 11 septembre, par exemple, je m'étais mis à porter un petit drapeau américain épinglé au revers de ma veste, me disant que c'était une manière modeste comme une autre d'exprimer un sentiment de solidarité nationale après une épouvantable tragédie. Et puis, quand le débat autour de la guerre contre le terrorisme lancé par Bush et l'invasion de l'Irak a commencé à s'éterniser, quand j'ai vu John Kerry se faire agonir de critiques et entendu Karl Rove et ses semblables remettre en question le patriotisme de ceux qui s'opposaient à la guerre en Irak, quand j'ai vu mes collègues au Sénat, arborant tous le même pins que moi, voter allègrement la diminution du budget alloué à l'aide aux vétérans, j'ai discrètement remisé mon petit drapeau. C'était moins un geste de contestation qu'une façon de me rappeler à moi-même que, en matière de patriotisme, les actes étaient bien plus importants que les symboles. Personne apparemment n'a rien remarqué, d'autant que la plupart des autres sénateurs, y compris l'ancien marine et prisonnier de guerre John McCain, ne portaient le plus souvent pas le moindre pin's épinglé au revers de leur veste. Alors en octobre, dans l'Iowa, quand un journaliste de la presse locale m'a demandé pourquoi je ne portais pas de petit drapeau, j'ai répondu la vérité, à savoir qu'à mon avis, l'amour qu'on vouait à son pays ne se mesurait pas à la présence ou non d'un bout de métal qu'on pouvait acheter dans n'importe quel bazar. Il n'en fallait pas plus pour que les chroniqueurs des chaînes conservatrices se mettent à dégoiser sur les significations possibles de l'absence de pins au revers de ma veste. Obama déteste le drapeau. Obama n'a aucun respect pour nos troupes. Des mois plus tard, ils en parlaient encore, et ça commençait à m'énerver sérieusement. Est-ce que quelqu'un veut bien m'expliquer, avais-je envie de demander, pourquoi le revers de ma veste attire soudain tellement l'attention, alors que personne ne s'est jamais intéressé à la veste d'aucun autre candidat à la présidentielle avant moi? Sans surprise, Gibbs m'a dissuadé d'exprimer publiquement mon exaspération. Pourquoi leur faire ce plaisir? Tu es en train de gagner. Pas faux. En revanche, il s'est révélé beaucoup plus difficile de ne pas sortir de mes gonds lorsque ma femme a été à son tour ciblée par ce genre d'insinuation. Depuis l'Iowa, Michel avait continué d'illuminer notre campagne. Comme les filles étaient à l'école, nous réservions sa présence pour les primaires les plus serrées et limitions ses déplacements au week-end. Mais partout où elle allait, elle était drôle et enjouée, franche et avisée. Elle parlait de l'éducation des enfants et de la difficulté de naviguer entre les exigences de la vie professionnelle et celles de la vie de famille. Elle évoquait les valeurs que ses parents lui avaient inculquées, son père qui n'avait jamais manqué un seul jour de travail malgré sa sclérose en plaques, sa mère qui avait témoigné une attention de tous les instants à l'éducation de sa fille, son enfance dans une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent mais où l'amour coulait à flot. Des histoires toutes droit sorties d'un dessin de Norman Rockwell ou de la série télévisée « Leave it to Beaver ». Mes beaux-parents étaient l'incarnation même des goûts et des aspirations typiques de l'Amérique, telles qu'on se la représente souvent. Et de fait, je ne connaissais personne qui ait des goûts aussi typiquement américains que Michel, elle qui n'aimait rien tant que dévorer un burger frites, regarder un vieil épisode du Andy Griffith Show ou passer un samedi après-midi à faire du shopping au centre commercial. Et pourtant, du moins selon certains chroniqueurs, Michel était différente, peu crédible dans le rôle de première dame des États-Unis. Elle avait l'air en colère, disait-il. Il lui arrivait d'essuyer des insultes, comme le jour où Fox News, sur un bandeau en bas d'écran, l'avait surnommée « la baby-mama d'Obama » pour la rabaisser à un rôle domestique. Et les médias conservateurs n'étaient pas les seuls à s'en prendre à elle. Dans une chronique du New York Times, la journaliste Maureen Dowd expliquait que lorsque Michel, sous prétexte de me taquiner, parlait de moi dans ses discours comme d'un père empoté qui laissait le pain moisir dans la cuisine et le linge sale traîner partout dans la maison, ce qui ne manquait jamais de déclencher une salve de rire complice dans le public, loin de contribuer à me rendre plus humain, elle m'émasculait, nuisant ainsi à mes chances d'être élu. Ce genre de commentaires n'était pas fréquent, et certains dans le staff considéraient que cela faisait partie des coups bas inhérents aux campagnes électorales. Mais ce n'est pas ainsi que Michel l'a vécu. Elle savait que, outre la camisole de force qu'on obligeait les épouses d'hommes politiques à porter, la compagne aimante et docile, charmante mais sans opinion personnelle trop arrêtée, cette même camisole que Hillary avait rejetée autrefois, ce qu'elle continuait d'ailleurs de payer au prix fort, d'autres stéréotypes étaient appliqués aux femmes noires. Des clichés familiers que les petites filles noires assimilaient régulièrement comme des toxines, du jour où elles voyaient une poupée Barbie blonde pour la première fois, ou versaient sur leurs pancakes du sirop d'érable de la marque Aunt Jemima, dont l'étiquette arborait le visage jovial d'une domestique noire. L'idée selon laquelle elles n'étaient pas conformes au canon de la féminité en vigueur, que leurs fesses étaient trop grosses et leurs cheveux trop crépus, qu'elles étaient trop bruyantes ou trop sanguines ou trop insolentes avec leurs compagnons. L'idée selon laquelle non seulement elles les émasculaient, mais qu'elles étaient elles-mêmes trop masculines. Michel avait toujours réussi à se soustraire à ce fardeau psychologique, notamment en prenant un soin méticuleux de son apparence, en veillant à toujours rester maîtresse d'elle-même et de son environnement, et en se préparant avec diligence à toutes les éventualités, tout en refusant de se laisser intimider et transformer en quelqu'un qu'elle n'était pas. Qu'elle soit parvenue à préserver son intégrité avec une telle élégance et une telle dignité, comme tant d'autres femmes noires confrontées à cette avalanche de messages négatifs, était extraordinaire. Bien sûr, il était dans la nature des campagnes présidentielles que les choses dérapent parfois. Dans le cas de Michel, cela s'est passé juste avant la primaire du Wisconsin. Pendant un discours, alors qu'elle était en train d'expliquer à quel point elle était impressionnée de voir tant de gens se mobiliser derrière nous, elle a déclaré « Pour la première fois de ma vie d'adulte, je suis vraiment fière de mon pays, parce que je suis convaincue que les gens ont soif de changement. » C'était la bourde dans toute sa splendeur. Une petite phrase improvisée que les médias conservateurs se feraient une joie d'isoler, de sortir de son contexte et de retourner contre elle. L'expression dénaturée d'un sentiment qu'elle avait déjà maintes fois évoqué en public, cette fierté de voir notre pays s'engager sur une nouvelle voie, renouer avec une forme d'engagement politique pleine de promesses. Mon équipe et moi étions en grande partie responsables. Nous avions propulsé Michel sur la scène de la campagne sans aucun des outils que j'avais en permanence à ma disposition. Les rédacteurs de discours, les séances de préparation, les briefings, toute l'infrastructure qui me permettait de rester cohérent et pertinent. C'était comme envoyer un civil au combat sans gilet pare-balles. Peu importe. Les journalistes se sont jetés sur l'occasion et les spéculations sont tout de suite allées bon train. À quel point la petite phrase de Michel pouvait nuire à la campagne, dans quelle mesure elle était révélatrice de ce que pensait vraiment Obama. Je voyais bien que cette attaque s'inscrivait dans une intention plus générale et plus perfide, une volonté délibérée de faire peu à peu émerger un portrait de nous négatif, fondé sur des stéréotypes, attisé par la peur et conçu pour alimenter les inquiétudes suscitées par la perspective de voir un homme noir prendre en charge les décisions les plus importantes pour le pays et s'installer avec sa famille noire à la Maison Blanche. Mais j'étais moins préoccupé par l'incidence que cet épisode pouvait avoir sur la campagne que peiné de constater à quel point il avait blessé Michel, à quel point ma si forte, si intelligente et si belle épouse en était déstabilisée. Au lendemain de ce faux pas dans le Wisconsin, elle m'a rappelé qu'elle n'avait jamais eu le moindre désir d'être sous les projecteurs, et elle a ajouté que si sa présence à mes côtés devait faire plus de mal que de bien à la campagne, elle préférait autant rester à la maison. Je lui ai promis qu'à l'avenir, elle pourrait s'appuyer sur un plus grand soutien de la part de nos équipes, et je lui ai assuré qu'elle était mille fois plus convaincante aux yeux des électeurs que je ne le serais jamais. Mais j'avais beau essayer, rien ne semblait pouvoir la réconforter.